Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro, je vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Selon des spécialistes en gériatrie, moins de 30 % des personnes aînées font de l'activité physique sur une base régulière. Et pourtant, ces mêmes experts s'entendent. Le vieillissement physique et cognitif peut être retardé par le style de vie que l'on adopte. Et on parle ici, comme on le dit souvent, hein, l'émission, des habitudes alimentaires saines, des interactions sociales continues, des activités cognitives stimulantes, mais surtout l'activité physique. Et en ce sens, les études de l'équipe du Dr Louis Bérère, lui directeur scientifique du Centre Perform de l'Université Concordia, démontrent que la danse peut aider à mieux vieillir. Il sera là en deuxième partie d'émission pour nous en parler. Et puis, parce que j'ai de la suite dans les idées aujourd'hui, je vous parle de méditation qui peut aussi faire partie d'un style de vie sain. Et encore une fois, les experts s'entendent pour dire que la méditation a de réels bienfaits sur la santé mentale, sur la santé physique. Toutefois, on ne peut pas se le cacher, on est dans une société de performance qui est rythmée par le travail, par les obligations. Et c'est parfois un petit peu difficile de s'arrêter 10, 15, 40 minutes de façon quotidienne pour pratiquer la méditation. Il y a un type de méditation que, bon, je pourrais l'exprimer ainsi, qui s'appelle méditation pleine conscience, qui est une forme de méditation qui se pratique en situation d'éveil pour se recentrer et ce, sans devenir moins productif. Et à preuve, le monde des affaires et les professionnels de la santé l'adoptent de plus en plus. J'en parle davantage à l'instant avec Marie-Josée Boileau, psychologue au C3S du Sud-Ouest de Verdun. Marie-Josée Boileau, bonjour.
Oui, bonjour. Enchantée.
Enchantée, certainement. Les bienfaits de la pratique de la méditation pleine conscience sur la santé physique et psychologique, et je le disais un petit peu plus tôt en introduction, ça a été abondamment étudié et documenté pendant les dernières années. Et pourtant, c'est une pratique qui est relativement nouvelle. Ça a été mis de l'avant il y a à peu près un peu plus de 30 ans, c'est ça?
Oui, oui. Nous autres ici, hein, je dirais en Amérique du Nord, on a été particulièrement sensibilisés par cette pratique-là en 1979, je dirais plus précisément. C'est Jon Kabat-Zinn, qui était un professeur émérite de l'Université du Massachusetts. Et il a fondé là-bas la clinique de réduction du stress basée sur la pleine conscience au Centre médical de l'Université du Massachusetts. Et c'est de là que, dans le fond, on a commencé à s'y intéresser puis à voir les bienfaits. Puis il réalisait que, dans le fond, en pratiquant la méditation pleine conscience là, sur une base régulière, il y avait des patients qui complément de leur traitement médical, là, mm-hmm. ils arrivaient à réduire leur réponse de stress, d'anxiété, de douleurs chroniques, puis ça favorisait de façon remarquable leur rétablissement. Fait que ça a été vraiment une découverte majeure à cette clinique-là. Puis, ben à partir de là, ça a fait un peu boule de neige, je dirais. Ça s'est répandu dans plusieurs centres médicaux, des hôpitaux, des cliniques dans le monde entier. Puis, présentement, c'est devenu, je dirais, un champ majeur de recherche, autant en médecine, en psychologie, en neurosciences, puis tout ça. Là. Fait que on l'utilise pas seulement pour le traitement du stress, de l'anxiété, mais aussi pour l'humeur dépressive, les troubles bipolaires. Dans le fond, c'est une pratique qui s'est étendue, finalement.
On l'utilise même en toxicomanie, Marie-Josée Boileau, je lisais.
Oui. Dans le fond, c'est, je dirais, en fait, ça pourrait être utile pour tout le monde, ça pourrait aider tout le monde parce que les bienfaits sont importants. Fait que c'est effectivement de plus en plus utilisé à de multiples endroits.
Dans différentes sphères. Et là, je trouve ça intéressant, de plus en plus dans les facultés de médecine, on fait appel à la méditation pleine conscience pour former les spécialistes de la santé, et pas seulement les médecins, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, les infirmières également, et également dans le monde des affaires.
Tout à fait.
Donc, c'est extrêmement vaste et, on a parlé des nombreux bienfaits. Bien sûr, pour un spécialiste de la santé, c'est peut-être pas, on ne va pas viser les mêmes choses que pour le grand public, j'imagine.
Je dirais, dans le fond, le grand public, je sais pas très bien quelle distinction vous voulez faire.
Ben, pour un spécialiste de la santé, on va parler d'empathie, on va parler de pouvoir se recentrer entre deux patients. Des fois, les médecins sont extrêmement sollicités, un grand, grand stress, ils tiennent la vie des gens entre leurs mains. Pour le grand public, c'est peut-être différent. Est-ce qu'on va cibler les mêmes choses?
Bien, je dirais que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que, si j'oserais l'exprimer comme ça, là, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup au traitement de l'anxiété. Là. Mm-hmm. Chez nous, on a mis sur pied un groupe d'autogestion de l'anxiété, puis je le co-anime depuis quelques années. Puis j'ai beaucoup la clientèle là, qui souffre de troubles anxieux, je dirais en général. Puis souvent, ce qu'on va, des choses qu'on peut leur enseigner, entre autres, c'est des techniques de relaxation. Mais des techniques de relaxation, ça vise un but en particulier, favoriser la détente. Je dirais, on a un objectif en tête, devenir mou comme du jello, peu importe. Là. Mais quand la méditation, c'est pas une technique, c'est une philosophie de vie, c'est une façon d'aborder la vie. Fait que je dirais, dans ce sens-là, pour le grand public, pour tout le monde, je dirais que c'est un regard différent qu'on peut porter sur les choses et dans le fond, on peut l'intégrer dans notre quotidien. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant de la méditation pleine conscience par rapport à d'autres formes de méditation parce que souvent, les gens, le grand public, ont en tête s'asseoir sur un tapis puis méditer puis atteindre l'illumination pendant des heures. Mm-hmm. Mais la méditation pleine conscience, c'est pas ça. C'est beaucoup plus, dans le fond, comment porter pleinement attention à ce qui est dans le moment. Puis le fait d'y accorder toute mon attention, ça me permet de me déposer, puis pendant un instant, de me gorger un peu d'énergie ou de goûter à ce qui est présent dans le moment, que mes sens me permettent de connecter. Ça peut être une belle envolée d'oiseaux, ça peut être un café que je suis en train de savourer, ça peut être une musique que j'aime entendre, peu importe ce qui est présent dans le moment. Et je prends le temps de m'arrêter et d'enregistrer ce moment-là. Mm-hmm. Et ça peut se faire en lavant la vaisselle, ça peut se faire en s'en allant au travail en voiture, ça peut se faire en prenant une douche le matin, en se brossant les dents. C'est d'habiter pleinement des différentes activités qui se déroulent dans mon quotidien. Et le fait de le faire de cette façon-là, je dirais, c'est comme si ça, au niveau de notre corps, ça nous fait produire moins d'hormones de stress. Mm-hmm. Ça favorise un mieux-être puis un bien-être là, à ce moment-là.
Donc, je pense que c'est important de le redire, Marie-Josée, la méditation pleine conscience, ça ne se fait pas nécessairement de façon immobile. Ça peut se faire en marchant, en se rendant au terminus d'autobus, à la voiture, à la garderie pour chercher les enfants.
Exactement. C'est dans le fond, on décide, c'est vraiment intentionnel, hein? C'est pas quelque chose qu'on va forcer, c'est juste de se laisser le choix à un moment donné. Je peux être à un arrêt de bus, j'attends l'autobus, puis je peux, dans le fond, habiter ce moment-là en disant, mon Dieu, quand est-ce que l'autobus va arriver? Est-ce qu'il va être à l'heure? Est-ce que je vais être à temps au travail? Dans le fond, d'être dans une période où je vais produire beaucoup d'hormones de stress, je serai pas bien, je vais être crispée, tendue, je vais anticiper quelque chose, ou je pourrais choisir librement de porter pleinement mon attention à ce qui est là dans le moment. Puis tout d'un coup, lever les yeux, puis d'apprécier peut-être un bel arbre qui est proche ou décider que je me centre tout simplement sur ma respiration, puis je fais des respirations abdominales profondes. C'est vraiment une question de... Si on symbolisait l'attention par une lampe de poche, c'est de retrouver un peu le pouvoir de sa lampe de poche. Mmh. Où je vais la diriger, ma lampe de poche, dans le moment. Puis de pleinement habiter ce moment-là. D'essayer que ma lampe de poche va être tournée vers ça dans le moment. J'ai peut-être 5 minutes à attendre le bus, mais c'est un 5 minutes que je vais vivre totalement différemment. Puis je vais l'enregistrer, ça. Et ça, ça fait des dépôts d'énergie à l'intérieur de nous.
Mm-hmm. J'ai souvent l'impression que notre lampe de poche est dirigée vers les mauvaises choses. Et bien sûr, sans vouloir rendre coupable personne, on n'est pas là-dedans, mais quand on attend l'autobus et que l'on focalise sur le fait d'être en retard, nos énergies se gaspillent. C'est une façon, un petit peu comme vous le disiez très bien tout à l'heure, de se regorger d'énergie.
Mm-hmm. Oui, c'est qu'on fonctionne beaucoup sans s'en rendre compte, nous autres les humains, sur le pilote automatique.
Ouais.
Puis c'est comme, puis à quelque part, c'est bon parce que si, des fois je donne souvent cet exemple-là, si je fonctionnais pas sur le pilote automatique, ben j'embarquerais dans ma voiture, je me dirais, voyons, comment je fais pour faire fonctionner mon auto? Comment je fais même pour me lever puis me déplacer si je veux marcher? Donc, j'ai plus à me poser ces questions-là. Là. Comment je fais pour manger? J'ai plus à me poser ces questions-là. C'est sur le pilote automatique. La seule chose, c'est que des fois, il y a des choses qui embarquent sur le pilote automatique et ça ne fait pas nécessairement de bien. Je ne sais pas s'il y en a peut-être parmi votre auditoire qui connaissez Dr. Serge Marquis qui a écrit un livre, Le Pensouillard, le hamster, oui. Le petit traité de décroissance personnelle. Donc, on a dans le fond, des fois, dans notre pensée, je dirais une tendance à ruminer, un peu comme on appelle ça le hamster mental. Donc, à rouler dans notre tête, des fois, ça peut être des regrets de choses dans le passé ou ça peut être, dans le fond, de l'anticipation dans le futur. Hein? On est beaucoup dans tout d'un coup que si alors, où j'aurais donc dû. Donc ça, je dirais, quand on est là-dedans puis qu'on roule avec ça dans notre tête, bien, on peut être, je dirais, 5 minutes à attendre l'autobus puis, dans le fond, rouler ces préoccupations-là sur un pilote automatique sans s'en rendre compte.
Ouais.
Souffrir, des fois, c'est penser sans le savoir. Et malheureusement, bien, pendant que ça se produit, bien, mon corps, mon cerveau, lui, enregistre que je suis en train de voir du danger et il produit des hormones de stress pendant ce temps-là.
Ouais.
Et ça, bien, le cumul de tous ces petits moments-là dans une journée où on est sur un pilote automatique où on produit des hormones de stress, bien, ça fait que ça ne fait pas de bien en bout de ligne et qu'on prend, on perd à un moment donné la capacité de dans le fond, je m'intéressais à un moment donné aux des études sur le bonheur une période, mais dans le fond, le bonheur est à portée de main. C'est tous ces petits moments-là auxquels on peut prêter notre attention.
Et que l'on additionne au bout d'une journée.
Exactement.
Oui.
Et c'est ce qui fait qu'on va évaluer notre vie plus heureuse ou moins heureuse là, en bout de ligne là, à ce moment-là. Puis c'est cette façon-là de faire, c'est quand je dis que ça gorge d'énergie, c'est que ça nous donne l'énergie pour affronter des épreuves qui se présentent aussi nécessairement dans notre vie, là. Mais on a l'énergie pour le faire si on a pris le temps justement de se déposer comme ça.
On parle beaucoup de ce moment présent et bien sûr, c'est ça la méditation pleine conscience, c'est de revaloriser le moment présent, mais qu'est-ce qu'on fait du passé et du futur? Est-ce qu'il faut complètement les éliminer de notre vie? Bien, ça se fait pas, premièrement, je pense.
Oui, bien, c'est ça. C'est vraiment intéressant comme question parce que souvent, c'est très galvaudé. Hein? On est tellement rendu à dire, hey, il faut habiter le moment présent, que souvent, dans les cours que j'anime, moi, je demande aux gens combien de temps faudrait passer dans le moment présent. Puis souvent, les gens me disent 100% du temps parce que le passé puis le futur, c'est négatif. Mais on est rendu dans un autre extrême, des fois, au niveau de notre pensée parce que je dirais, si on coupe les racines à un arbre, il meurt. Donc, notre passé est important. Puis moi, souvent, je m'en sers en thérapie avec les clients pour dire, ben écoute, tu vis une épreuve en ce moment, mais tu en as traversé d'autres. Comment tu t'y es pris? Tu sais, donc, le passé est utile pour se rappeler le bagage qu'on a, nos forces, nos ressources, nos compétences, les choses qu'on a réussi à traverser, puis des beaux souvenirs à l'intérieur duquel on peut se nourrir à ce moment-là. Donc, ça, c'est pas négatif d'aller dans le passé. D'aller dans le futur, quand on va dans des projets qui nous enthousiasment, qu'on fait de la planification de choses qui sont intéressantes, qui sont stimulantes pour nous, ça nous fait avancer, ça donne de l'espoir. Hein? Puis moi, en thérapie, c'est ce que je fais le plus, cultiver l'espoir avec les gens. Donc, le passé, le futur, c'est précieux. Il n'y a pas, en fait, de temps plus important qu'un autre. Mais la seule chose, c'est pour la méditation pleine conscience nous entraîne à habiter le moment présent parce que dans nos vies où on est beaucoup bousculé et affairé, puis comme on sait qu'on fonctionne beaucoup sur le pilote automatique, des fois, on a des automatismes dans la pensée et c'est que ça fait en sorte qu'on habite peu le moment présent. Et dans le fond, c'est le temps qui est le plus fragile en bout de ligne et c'est celui qu'il faut s'entraîner à retourner vers parce que dans le fond, dans nos automatismes de pensée, des fois, on retourne dans un passé qui fait pas de bien ou dans un futur qui fait pas de bien non plus. Et là, ben, il faut s'en rendre compte parce que si on continue de ruminer beaucoup, c'est ce qui prépare sur du long terme le terrain à l'humeur dépressive,
et voilà.
À un moment donné, à la dépression. Là.
Et à l'anxiété, voilà.
Et à l'anxiété, exactement.
On devrait méditer combien de fois par semaine, combien d'heures par jour? Ça, c'est la grande question.
Oui. C'est sûr que, je dirais, dans le fond, il y en a qui disent « Mon Dieu, je ne serai jamais comme le Dalai Lama à méditer 30 heures par semaine pendant 30 ans. » Fait que, mais dans le fond, c'est un peu propre à chacun de voir un peu le temps qu'on est prêt à y consacrer dans notre vie puis ce qu'on a envie de ressentir en bout de ligne comme bienfait à tout ça. Mais souvent, ce qu'on va recommander, ce serait d'avoir une pratique quotidienne juste pour s'entraîner à aller habiter ce moment présent-là. Une pratique quotidienne, je dirais, ce qui serait souhaitable au début, c'est d'être dans un endroit qui est plus calme, plus en retrait, où on ne sera pas dérangé. Et peut-être plus le matin pour commencer, parce que c'est comme si ça permet en début de journée d'aller installer un état d'être qui devient un peu un point de référence pour notre journée, puis qui peut nous donner envie d'y retourner de temps en temps ou de faire perdurer un peu l'état. Puis en même temps, ben je dirais aussi, on va suggérer peut-être au départ d'avoir un 10 minutes le matin à ce moment-là. Là. Fait que,
c'est rien quand on y pense, hein?
Oui.
10 minutes.
C'est rien, puis en même temps, ça fait toute la différence aussi, ce 10 minutes-là où... Et dans notre vie où on est beaucoup happé vers l'extérieur, c'est un temps où on se connecte à soi-même, où on cultive un peu notre intériorité. Là, fait que devenir auto-observateur de soi plutôt que d'être dans la fuite de soi-même, hein, ça peut donner beaucoup d'informations précieuses avec le temps.
Oui. Et justement, en terminant, Marie-Josée, qu'est-ce que vous dites à vos clients qui, justement, sont effrayés de ça? On n'est pas habitué de plonger à l'intérieur de soi. On est vers un écran, on est vers la performance. On valorise l'action beaucoup, beaucoup dans notre société. Et parfois, se rencontrer, ça peut être un peu bouleversant là, lorsqu'on veut s'initier à la méditation.
Mm-hmm. C'est sûr que, je dirais au départ, des fois, ce qui va beaucoup décourager les gens, c'est de découvrir à quel point leur esprit part continuellement, puis ils disent « ben moi, c'est pas fait pour moi parce que mon esprit part continuellement ». Puis moi, je leur dis tout le temps « ben c'est justement intéressant de découvrir ça, puis on fonctionne tous comme ça ». Donc, c'est de développer un accueil sans jugement de soi-même, puis c'est de dire « ben chaque fois que ton esprit part, dis-toi félicitations, puis dis-toi que chaque fois que tu t'en es rendu compte, ben c'est formidable parce que c'est comme si tu avais mis un bâton dans la roulette du hamster puis tu viens de le faire débarquer. Parce que l'hamster, quand il roule 300 fois plus vite que ton débit de parole, puis il s'emballe vite. Hein. Fait que c'est déjà de l'avoir arrêté peut-être dans ton 10 minutes 350 fois, c'est déjà une énorme récupération. C'est déjà une certaine forme de pacification intérieure là, à ce moment-là. Quand les gens ont peur de cette connexion-là avec eux-mêmes, moi, je leur dis, ben, de toute façon, c'est comme si, à quelque part, tu avais une voiture puis que ça flash sur le tableau de bord. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu gardes le pied sur l'accélérateur. C'est parce qu'à un moment donné, de toute façon, il va se passer quelque chose. La voiture va lâcher, il va arriver quelque chose.
Il va avoir un accro quelque part. Là. Oui.
Il va avoir une rencontre obligatoire avec la voiture puis son fonctionnement. Fait que c'est un peu la même chose avec nous-mêmes. C'est nos émotions, nos sensations physiques sont des signaux à prendre en considération, puis à prêter attention. Un peu si on faisait l'analogie avec un enfant qui pleure, si on prend le temps de l'aider à nommer ce qu'il ressent, bien, ça s'atténue, puis il continue de faire ses activités, puis il développe même un attachement plus profond avec nous. Mais si, par contre, on le laisse pleurer, puis on dit, bien là, fini, sèche tes larmes, puis passe à d'autres choses, là, puis ça va faire, puis t'es capricieux, puis etc., bien, je dirais, l'enfant peut, soit ça peut amplifier sa réaction, ou en tout cas, une chose est certaine, il va pas développer un attachement très fort à nous avec le temps. Là.
Oui, et pas devenir cet adulte qui apprend à calmer son anxiété et à nommer ses émotions, bien sûr. En tout cas, l'image est belle, la méditation pleine conscience comme étant une jambette au hamster intérieur. Ça, je vais retenir ça, Marie-Josée Boileau, et tout le reste parce que c'était vraiment des informations très précieuses. Je rappelle, vous êtes psychologue au C3S du Sud-Ouest de Verdun.
Ça a changé.
Oui, c'est le CIUS.
Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du centre-est de l'île de Montréal.
Ah, ben, merci de le préciser. On le fera également sur notre site. Merci beaucoup, Marie-Josée.
Bienvenue, ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Bonjour.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Louis Bérard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique du Centre Perform de l'Université Concordia. Et j'aimerais commencer avec des paroles que vous avez déjà mentionnées et que je trouve très fortes, Louis Bérard. Il n'y a aucune restriction concernant l'activité physique. La seule, c'est de ne pas en faire. Et ce, vous le démontrez dans vos recherches depuis des années. L'exercice physique peut améliorer les performances et la santé physique et cognitive des personnes âgées. Et vous avez mis de l'avant dernièrement avec votre équipe une thérapie par la danse et le mouvement. Comment ça peut aider la danse à vieillir dans de meilleures conditions?
Bon, d'abord, pour nuancer un peu, c'est bien d'avoir des propos punchés, les gens s'en souviennent. évidemment, je le pense encore et beaucoup d'autres personnes le pensent aussi, il n'y a pas de restriction. Dans la mesure où on le fait bien, puis on
bien
le fait évidemment avec les bons guides, parce que si on a des limites fonctionnelles, on a des problèmes de santé, il faut évidemment consulter les bonnes personnes avant de se mettre à s'entraîner pour le marathon. Mais au final, c'est vrai, c'est beaucoup plus dangereux de ne pas faire de sport que d'en faire, peu importe notre condition de santé. Et tout récemment, ben, c'est ça, on s'est mis en fait en partenariat avec les Grands Ballets canadiens de Montréal. Hein. C'est pas nous qui avons développé la danse et le mouvement thérapie, mais c'est vraiment un projet qui émane en fait des Grands Ballets de Montréal, les Grands Ballets canadiens à Montréal, finalement, qui ont développé cette expertise là, avec toutes sortes d'organismes américains qui sont des organismes mentors là-dedans. Et ils nous ont approchés à un moment donné pour développer des aspects scientifiques. Parce que la thérapie par la danse et le mouvement, ça existe depuis très longtemps, mais il y a très peu de données probantes en sciences biomédicales qui supportent les bienfaits. Alors nous, ça nous a beaucoup allumé parce que, bon, vous l'avez mentionné, notre laboratoire depuis des années travaille sur démontrer les effets de l'exercice physique sur la santé mentale et cognitive des personnes âgées. Par contre, maintenir les personnes âgées actives, c'est tout un défi.
Oui.
En fait, plus on vieillit, moins on est actif. Et plus on vieillit, moins les gens ont de la motivation de faire du sport pour faire du sport. Donc, après nos programmes, on voit beaucoup de gens qui abandonnent, on voit beaucoup de gens qui manquent de motivation pour maintenir l'activité physique. Et on a découvert au fil de nos études que, selon certaines enquêtes internationales, la danse est un truc très motivant pour les personnes âgées. Donc, on s'est dit, est-ce que, quand les Grands Ballets nous ont approchés, on s'est dit, bien, ça ferait peut-être une offre de service nouvelle pour faire bouger nos personnes âgées, avec en tête le fait que l'immobilité est dangereuse pour elle.
Oui, tout
à
fait.
Donc, c'est comme ça qu'on a monté le partenariat, si on veut.
Est-ce que le type de danse est important? Là, on parle de ballet classique, mais est-ce qu'on pourrait aborder différents types de danse?
Bien, en fait, ce n'est pas du ballet qu'ils font. C'est la danse et mouvement thérapie, c'est un truc un peu spécial qui vise, en fait, à rendre la personne confortable dans ses mouvements. Et c'est des mouvements très spontanés, très créateurs. Les gens, pendant les séances de mouvement et de danse, se sont amenés à improviser des mouvements ensemble, en groupe, reproduire les mouvements que d'autres ont produits dans le groupe. Donc, c'est quelque chose qui est assez... C'est évidemment, tout ça est sous la direction... ce sont des séances dirigées par un danse-thérapeute.
Ouais.
Mais c'est assez ouvert. C'est pas de la danse comme le Grand Ballet canadien le font en général. Hein. C'est de la danse et mouvement thérapie, c'est très spécifique. Et c'est pas non plus de la danse en ligne ou de la danse du ballroom, comme on dit. Donc, il y a des études, par contre. Il existe des études dans d'autres groupes scientifiques qui ont montré les bienfaits de danses plus connues, comme la salsa, par exemple, ou comme le tango. Et il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle. Je vous dirais qu'il n'y a personne qui pourrait dire demain matin, là, selon moi, à la lumière des études scientifiques, telle danse est meilleure que telle autre.
Oui.
À mon avis, c'est tous des bons moyens de faire bouger les gens et de les amener à intégrer dans leur quotidien au jour le jour, une activité physique qui les fait bouger.
Oui, parce que, et ça, vous l'avez déjà dit, Louis Bérère, bouger, c'est important, mais c'est pas juste aller à l'épicerie en marchant, là. Ça doit être un petit peu plus soutenu que ça et plus fréquent également.
Oui, la fréquence est clé, très importante. Le faire de façon courante et le faire pendant une période assez soutenue. Maintenant, ce que les recherches récentes, et puis on s'est parlé, nous, il n'y a pas très longtemps, mais les choses bougent vite en science.
Oui.
Alors, quand on s'était parlé la dernière fois, la tendance lourde, c'était s'il n'y a pas d'entraînement dit aérobie, oui, donc qui améliore la santé cardio-respiratoire, c'est pas utile pour le cerveau, en tout cas. Alors que présentement, au moment où on se parle, en tout cas en 2014-2015, tout récemment, il y a eu plusieurs études qui ont été publiées, et une de nos études, entre autres, qui a montré que des programmes d'entraînement de mobilité, en fait, de fonctionnalité, des programmes d'entraînement de fonction motrice globale, sans aspect aérobie, des aspects de coordination motrice, des aspects de d'équilibre, par exemple, vont aussi avoir un bienfait sur les fonctions cérébrales des personnes âgées.
Mm-hmm.
Donc, on s'en va vers une tendance qui va suggérer probablement un entraînement plus combiné, hein, combinant des approches aérobie, des approches force musculaire aussi. Plusieurs études de groupes de recherche canadiens, entre autres, ont montré que la force musculaire, seulement entraînée, les groupes musculaires inférieurs, supérieurs, vont améliorer les fonctions cognitives également.
Mm-hmm.
Donc, moi, ma recommandation, à la lumière des études actuelles, c'est de combiner les différentes approches pour s'assurer qu'il y a une dose assez importante de chacune des approches.
Oui. Louis Bérère, ici aussi, ça file vite, hein, pas juste en sciences, et il nous reste à peu près une minute ensemble. Je veux juste savoir, cette étude-là, là, que vous êtes en train de mettre en place avec votre équipe, ça va servir à quoi pour le grand public, à peut-être mettre davantage de cours de danse pour les personnes aînées?
Bien, ça va certainement servir à démocratiser un peu cette approche de la danse, mm-hmm, et surtout de la danse et mouvement thérapie, vers des applications de prévention en santé. Donc, les gens, en général, vont penser à ces approches-là, soit parce qu'ils sont intéressés à la danse, ou dans le cas de la danse et de mouvement thérapie, parce qu'ils sont intéressés à soigner des maladies via une approche plus artistique, hein, en art-thérapie, par exemple. Alors que là, nous, on tente de l'amener dans une perspective préventive, c'est-à-dire de l'intégrer dans le quotidien. Va-t-il nous permettre de prévenir des troubles cognitifs ou des limites associées au vieillissement? Et c'est une étude qui va durer 3 ans. On est en plein milieu de l'étude. Je ne peux pas vous confirmer tout de suite que tout va fonctionner. On est en étude pilote.
Mm-hmm.
Pour l'instant, ça donne des résultats très intéressants. Les gens aiment beaucoup.
Eh bien, oui, j'imagine, parce que la danse, en plus d'être bon pour la santé, c'est pas mal amusant. Louis Bérère, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur scientifique du Centre Perform de l'Université Concordia. Merci beaucoup pour nous expliquer, vulgariser ces études scientifiques qui sont vraiment très intéressantes pour la santé de nos personnes aînées. Merci, Louis Bérère.
Je vous remercie.
Au revoir. Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous demain, nous. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.